5h, merci de vous réveiller avec nous sur Radio J. Vous pouvez nous écouter sur radioj.fr et en DAB+. Bienvenue dans votre grand journal. Mais comme tous les jours, on commence avec un point complet sur l'actualité qui vous est présenté par Nina Alouche. Nina, bonjour.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
À la une de l'actualité, Israël frappe une nouvelle fois l'ouest de l'Iran dans la province occidentale d'Ilam et contrôle l'espace aérien au-dessus de Téhéran.
Israël a frappé plus de 120 lanceurs de missiles et éliminé des hauts responsables du renseignement du CGRI et de la Force Quds. Israël obtient donc la supériorité aérienne sur Téhéran. L'analyse de notre correspondant à Jérusalem, Daniel Eich.
Selon le site Ynet, en 3 jours, l'armée d'air israélienne a détruit 720 infrastructures militaires iraniennes et ce n'est qu'une liste provisoire car les raids israéliens se poursuivent en permanence en Iran. Ça a indiqué que ces avions avaient en particulier détruit des dizaines de bases de lancement de missiles sol-sol. Les objectifs sont clairs, neutraliser 2 programmes iraniens d'envergure, le programme nucléaire d'une part et le programme des missiles balistiques de l'autre.
Notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk, plus de 50 avions de chasse et autres aéronefs ont mené des frappes. Cela représente un tiers des lanceurs de missiles sol-sol que possède le régime iranien, a déclaré le porte-parole de l'armée et Effie Defrine lors d'une conférence de presse.
Et 8 personnes ont été tuées ce matin dans le centre d'Israël à cause des attaques iraniennes.
Les tirs de missiles iraniens ont fait 24 morts en Israël depuis vendredi. Par ailleurs, près de 300 personnes ont été hospitalisées après les attaques de missiles iraniens de la nuit dernière. Les opérations de sauvetage et de recherche se poursuivent.
À Tel Aviv, 2 frappes de missiles signalées, dont l'une qui a causé des dommages à un bâtiment de l'ambassade des États-Unis.
Aucun blessé parmi le personnel diplomatique américain. Les activités de l'ambassade à Tel Aviv vont rester temporairement suspendues aujourd'hui. Par ailleurs, les compagnies aériennes israéliennes vont commencer à rapatrier des citoyens israéliens bloqués à l'étranger dans les 72 heures.
Et le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, fait des propos fracassants sur les réseaux sociaux. Il avertit notamment les habitants de Téhéran et l'Iran qu'ils paieront bientôt le prix des attaques commises contre des civils israéliens.
Israël Katz a également déclaré « Je tiens à clarifier une évidence, il n'y a aucune intention de nuire physiquement aux habitants de Téhéran, contrairement à ce que fait le dictateur meurtrier qui cible les civils israéliens. » De son côté, l'Iran affirme avoir frappé avec succès l'État hébreu, promettant des frappes plus dévastatrices contre les cibles vitales israéliennes.
La flottille de bateaux lance-missiles de la marine israélienne a intercepté hier soir 8 véhicules aériens sans pilote, des drones donc, lancés depuis l'Iran vers Israël.
Il s'agit de la première utilisation opérationnelle du système Barak Magen et de son intercepteur longue portée El-Rad. Depuis le début de l'opération militaire, les navires de la marine israélienne ont intercepté environ 25 drones qui constituaient une menace pour les civils israélien.
Et puis Israël a expulsé en Jordanie les 3 derniers passagers de la flottille pro-Gaza, dont 2 Français.
Le journaliste de Blas, Yanis Mamdi, et l'ingénieur Pascal Morillas vont regagner le territoire français dans les prochaines heures. Leur expulsion avait été reportée à la suite de l'attaque israélienne contre l'Iran et de la fermeture de l'espace aérien israélien. Au total, 12 personnes ont été arrêtées lundi après l'arraisonnement par Israël du voilier Madeleine. La plupart, dont la Suédoise Greta Thunberg et l'eurodéputé Rima Hassan, ont été expulsés par Israël plus tôt dans la semaine.
Donald Trump, allié fiable ou pas? En tout cas, les États-Unis auraient dissuadé Israël de s'en prendre au guide suprême iranien Ali Khamenei.
Les Iraniens ont-ils tué un Américain jusqu'ici? Non. Tant qu'ils ne l'auront pas fait, nous ne parlerons même pas de nous en prendre aux dirigeants politiques. Déclaration d'un haut responsable de l'administration américaine aux médias Reuters. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a quant à lui réfuté avoir voulu assassiner ses dirigeants sur la chaîne Fox News. Dans ce climat de tension entre l'Iran et Israël, Emmanuel Macron a de son côté appelé à la désescalade.
Nous continuons à faire la désescalade, à la reprise des discussions. J'ai pu hier m'entretenir avec le président d'Iran et j'ai appelé à ce que les discussions reprennent au plus vite. C'est aussi ce que j'ai plaidé dans mon échange avec le président Trump qui partage cette vision. Donc on aura l'occasion dans quelques heures d'y revenir avec les dirigeants du G7. Et j'espère que les prochaines heures ramèneront le calme et un chemin qui est celui de la discussion pour éviter qu'il y ait évidemment... quelques escalades de nucléaire, l'acquisition de capacités nucléaires en Iran et surtout d'éviter qu'il y ait quelque embrasement que ce soit dans la région.
Emmanuel Macron, ce matin en conférence de presse, le président russe et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont également exprimé leur profonde préoccupation face à la poursuite de l'escalade entre Israël et l'Iran.
Et puis en France, au salon aéronautique du Bourget, Israël se retrouve ostracisé. En effet, les organisateurs ont carrément installé une cloison noire autour des stands israéliens.
L'objectif, les isoler visuellement des autres pavillons internationaux, dont ceux de la Turquie et de la Chine. Ils exigent le retrait de plusieurs armements offensifs des stands israéliens. Une décision jugée sans précédent et scandaleuse par le ministre israélien de la Défense. Le président israélien, Isaac Herzog, s'est exprimé à ce sujet.
Nous étions choqués de voir ce matin que les pavillons israéliens étaient verrouillés pour qu'il n'y ait pas d'accès. Les entreprises israéliennes ont signé des contrats avec les organisateurs du Bourget. Ils ont payé pour être présents. C'est comme créer un ghetto israélien, de ne pas permettre aux entreprises israéliennes de montrer leur contribution à la défense du monde. Et je pense que c'est un scandale et que ça doit être corrigé immédiatement par les organisateurs du Bourget.
Réaction du président israélien Isaac Herzog sur LCI.
Plus de Légion d'honneur pour Nicolas Sarkozy. Il se les fait retirer après sa condamnation définitive à un an de prison ferme pour corruption.
Patrice Pinozzi, l'avocat de l'ancien chef de l'État, déplore cette décision.
Certain, c'est que Nicolas Sarkozy s'est vu retirer sa Légion d'honneur sous le coup d'une procédure qui est une procédure purement automatique, alors même que nous défendions qu'il y avait une spécificité au cas du président de la République. Le président de la République a toujours été, dans l'ordre de la Légion d'honneur, quelqu'un à part, et nous estimions qu'il y avait matière à ce qu'il puisse y avoir une appréciation. On ne demandait aucune immunité, on demandait juste une appréciation.
Patrice Pinozzi sur BFM TV ce matin. C'est la première fois qu'un président se voit retirer la Légion d'honneur. Fin avril, Emmanuel Macron s'était opposé à l'idée de retirer la Légion d'honneur à un ancien président, estimant que ce ne serait pas une bonne décision.
Merci beaucoup Nina Alouche. On vous retrouve tout à l'heure à 14h30 pour le rappel des titres.
Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
En raison de l'adoption de la motion de censure, le Premier ministre doit remettre la démission du gouvernement.
Ma ligne de conduite sera de ne rien cacher, de ne rien négliger et de ne rien laisser de côté.
Je ne dirais pas qu'on va censurer a priori, mais je commence à avoir des a priori de censure.
Il n'y a plus qu'une solution pour résoudre le problème. C'est une nouvelle élection présidentielle.
Alexis Lacroix, bonjour.
Bonjour Eva.
On vous retrouve pour votre chronique politique comme chaque lundi. Vous êtes directeur de la rédaction d'ActuJ. Alors, à la veille de l'ouverture du salon aéronautique de Paris au Bourget, un scandale. Les organisateurs de l'événement ont exigé au nom du gouvernement français le retrait de plusieurs systèmes d'armement offensifs exposés sur des stands israéliens. Mais ça, c'est que la première partie du problème, parce que la seconde partie, eh bien, c'est que ce matin, on a découvert que les stands israéliens étaient encerclés par des panneaux, des cloisons noires. Qui est responsable de ça déjà ? Est-ce que c'est le gouvernement français ? Parce qu'un salon aéronautique, c'est quand même quelque chose d'important.
Alors, je ne vais pas me prononcer sur les responsabilités, mais en revanche, elle témoigne d'un climat d'ostracisation d'Israël qui est paradoxal, puisque comme nous l'analysions dès vendredi, cette opération qui fédère en quelque sorte autour d'elle tous ceux qui ont peur de l'Iran, a quand même contribué, qu'on le veuille ou non, dans une partie de l'opinion et dans les chancelleries, y compris la chancellerie française, à redorer le blason d'Israël. Donc c'est tout à fait lamentable, regrettable et condamnable.
Comment ça s'explique ça ? Ça rappelle un peu la maxime de Clermont-Tauder, tout accorder aux Juifs en tant qu'individus, ne rien leur accorder en tant que nation. C'est une vieille tradition française ?
Non, je dirais pas ça, parce que la France, vous savez, vis-à-vis de l'expression de l'aspiration à l'autodétermination nationale du peuple juif, a toujours eu des traditions très différentes. Il y a des traditions qui l'ont condamné, mais il y a beaucoup de traditions, notamment d'ailleurs dans la gauche française historique, qui ont accompagné cette aspiration légitime, à l'indépendance, à l'expression de l'affirmation statonationale. Donc je ne pense pas qu'on puisse essentialiser négativement la France comme ça. En revanche, il y a aujourd'hui...
Comment vous qualifiez alors cette décision? Elle est grave, elle est antisémite, elle est anti-israélienne?
Non, elle est grave et elle est anti-israélienne, elle est parfaitement inappropriée et ceux qui sont à son origine, que je ne connais pas, devront s'en expliquer, s'en excuser, à mon avis, sans tarder.
Alors, autre question. Hein. La France, vous l'avez dit, hein, effectivement, les opérations israéliennes contre le nucléaire iranien ont tendance à fédérer, en tout cas davantage, évidemment, que la guerre à Gaza, qui continue, hein, il faut le rappeler. Alors, on a appris que la France n'était pas intervenue pour défendre Israël, car elle n'a pas été sollicitée, a dit le président Emmanuel Macron. Mais pourquoi donc n'a-t-elle pas été sollicitée? Ce matin, sur Radio J, Joshua Zarka, l'ambassadeur d'Israël en France, répond à la question.
C'est une défense qui est organisée par un groupe de pays. Pourquoi exactement nous n'avons pas sollicité la France, l'aide de la France, c'est difficile à dire. Je dirais peut-être que, vous savez, certaines des tensions qu'il y avait dernièrement pouvaient peut-être nous donner le sentiment qu'il fallait quelque chose de stable, disons.
Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France, ce matin dans le 6-9 sur Radio J. Alors ça, plus le salon aéronautique de Paris au Bourget, ça veut dire quoi? Que la France n'est plus considérée comme un allié d'Israël?
Alors, là encore, nuance, Eva. Vous avez raison, factuellement, ils veulent quelque chose de stable. Hein, c'est ce que son excellence Joshua Zarka dit. Il maîtrise bien, très bien la langue française. C'est d'ailleurs sa langue maternelle, puisqu'il a grandi dans la région parisienne. Donc, il sait ce qu'il dit. Stable, ça veut dire où il n'y ait pas de changement de pied. Et donc, effectivement, ce qui a dû beaucoup agacer les officiels israéliens, c'est on va dire, le caractère fluctuant, pour être gentil, des positions françaises ces derniers mois.
C'est le « en même temps » d'Emmanuel Macron.
Oui, et puis très récemment, il ne faut pas se leurrer, l'annonce en grande pompe du désir de reconnaître à terme, voire à court terme, un État de Palestine. Mais pour autant, là justement, il faut être très nuancé. Il y a tout de même, dans beaucoup de plans, et notamment sur le plan sécuritaire du renseignement, une étroite coopération franco-israélienne qui se poursuit en dépit du différent politique. Vous voyez, faut dissocier les deux niveaux. Et donc, je crois que l'ambassadeur d'Israël en France est très bien placé pour le savoir. Et donc, quand il dit ça, là aussi, il n'essentialise pas de manière négative la France. Il considère juste que c'est peut-être pas la priorité de l'avoir dans la coalition des nations en défense.
Alors justement, hein, Israël dans sa guerre multifront, hein, déjà plus de 600 jours que la guerre a commencé à Gaza et puis maintenant ce nouveau front en Iran. Est-ce qu'Israël peut se passer d'allié quand bien même certaines choses ne lui plaisent pas, comme la reconnaissance d'un État palestinien, parce qu'on voit pas trop le rapport avec l'Iran là?
Pardon, comme à l'accoutumée, vous posez les questions essentielles. Vous mettez le doigt sur l'essentiel. On va voir. C'est-à-dire, est-ce que dans les jours qui viennent, afin de parvenir à ses fins, c'est-à-dire de neutraliser le programme d'enrichissement atomique du régime de la mollahcratie iranienne, est-ce qu'il va être possible à Israël de se passer d'aide logistique? On pense notamment à celle des États-Unis, mais aussi à d'autres alliés qui viendraient de l'Union européenne. Pour l'instant, nul n'a la réponse. Ce qu'on peut envisager, c'est qu'au fil des jours, cette opération qui, encore une fois, dans l'Occident globalisé, vous voyez, si on raisonne du Japon au Canada et de l'Australie à l'Union européenne, n'est pas négativement perçue, va probablement fédérer des coopérations grandissantes.
Mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que Donald Trump, par exemple, dernièrement, dit tout et son contraire.
Oui, lui aussi.
Et en fait, les États-Unis apportent quand même leur soutien à Israël, alors pourquoi Emmanuel Macron, la France pourrait pas?
Alors, vous avez parfaitement raison. Là, je pense qu'il y a des choses qui sont liées, encore une fois, aux dernières semaines qui ont tendu les choses entre la France et Israël. Pas jusqu'au point de rupture, mais jusqu'à un certain point
de... Ça veut dire que vraiment, l'État palestinien, c'est central dans la politique étrangère israélienne aujourd'hui?
De ce gouvernement.
Oui. Hein,
absolument. Ça serait un gouvernement, vous voyez, composé avec des centristes, voire des travaillistes. Ça se poserait sans doute différemment. Mais là, effectivement, dans la perception de Benjamin Netanyahou et des personnes qui l'entourent. C'est un, comment vous dire, c'est un casus belli, si j'ose dire, vous voyez, pour employer une célèbre expression latine. Donc, je crois qu'il y a ça. Mais par ailleurs, dissocier bien le différent politique, qui est évident, qui s'est étalé sur la place publique, d'ailleurs, hein, avant même la proclamation de l'État de Palestine, de la coopération sécuritaire en matière de renseignement, etc., qui se poursuit, notamment entre les services français et le Mossad.
Alors, on va rester dans la politique, mais en France, hein, le numéro 1 du PS, Olivier Faure, renvoie dos à dos Jérôme Guedj et Jean-Luc Mélenchon après les déclarations de Jérôme Guedj sur le leader LFiste. Il l'a traité et il a dit que ça lui faisait de la peine parce que c'est vrai que Jérôme Guedj, ça a été un proche de Jean-Luc Mélenchon. Il l'a traité de salopard antisémite. Comment est-ce que vous voyez la prise de position d'Olivier Faure, le numéro 1 du PS, qui, ces derniers temps, semble plutôt pencher contre la ligne du PS incarnée par Jérôme Guedj ou Nicolas Mayer-Rossignol, etc.
Alors, je vous fais une réponse en deux temps. Sur le fond, évidemment, Jérôme Guedj pointe quelque chose de très juste, qui est cette évolution, ou plus exactement, cette involution idéologique de son ancien mentor. Je crois qu'il avait une relation très étroite dans le département de l'Essonne.
C'est pour ça que ça lui fait de la peine. Je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles il a dit une insulte.
Ça lui fait sincèrement de la peine. Et je comprends sa peine, et il a raison sur le fond. Maintenant, vous m'autorisez juste cette incise, et vous allez voir que ça ne donne pas raison à Olivier Faure pour autant. Je ne suis pas sûr que dans le combat politique, en règle générale, l'injure, qui est une grande tradition française, je le reconnais, mais que l'injure soit bienvenue. D'ailleurs, il y a des injures qui ne passent pas, et il y en a d'autres qui passent selon les personnes qui les profèrent. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'une partie du Parti Socialiste applaudit Jérôme Guedj, tant sur la forme que sur le fond. Moi, à titre personnel, je vais vous dire, puisque là, j'éditorialise avec vous, je l'applaudis sur le fond. C'est-à-dire, je pense qu'il y a moyen, quand on est un responsable public qui connaît la langue française comme Jérôme Guedj, de dire la même chose d'une autre manière.
Maintenant, une fois que c'est dit, un désaccord, parce que on se souvient tous des propos de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est juste un désaccord entre Jérôme Guedj et Jean-Luc Mélenchon?
Non, c'est le révélateur, et vous savez très bien que j'allais en venir là, c'est le révélateur du fait qu'il y a plus que jamais, selon la prophétie de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, deux gauches irréconciliables, non pas à l'intérieur même de la gauche, mais aujourd'hui on le voit, et ça va vous intéresser, à l'intérieur même du Parti Socialiste, d'où le renvoi dos à dos par le premier secrétaire réélu.
Olivier Faure, ça veut dire pour lui l'antisémitisme, c'est pas important?
Alors, je ne dirais pas ça exactement comme cela, car il a eu des déclarations, là aussi il faut être équitable, ferme et sans ambiguïté contre l'antisémitisme. En revanche, dans le cadre de son mano la mano ambigu, plein d'ambivalence à l'égard du chef de la France insoumise, dont il sait d'ailleurs qu'il aura besoin du soutien dans beaucoup de municipalités socialistes en mars 2026 lors des municipales, dans ce cadre-là, il est l'homme qui ménage la chèvre et le chou. Et donc, à ce titre, effectivement, il veut jouer un peu les casques bleus, vous voyez, du genre arrêtez de vous chamailler comme ça, de toute façon, on aura affaire ensemble. C'est ça que ça veut dire. Le message implicite, c'est ça que ça veut dire.
Justement,
vous voyez,
on va voir s'ils auront affaire ensemble ou si c'est le premier acte d'une scission, peut-être à l'image du congrès de Tours en 1920, mais ça, on en reparlera très vite avec vous, j'en suis sûr, Alexis Lacroix, puisque malheureusement, je pense que l'actualité fera qu'on sera obligé d'en parler.
Scission du PS au sens partidaire du terme, non. Division idéologique grandissante au sein même de la même maison, je pense que oui.
Merci beaucoup Alexis Lacroix, directeur de la rédaction d'ActuJ, pour votre chronique politique, bien sûr à podcaster sur radioj.fr.
Radio J, 14h, 15h, le grand journal.
Eva Soto.
14h et 18 minutes sur Radio J, à suivre dans votre grand journal la correspondance de Pascal Sunshine à Jérusalem. On reviendra bien sûr sur les dernières informations sur le terrain concernant la guerre Iran-Israël. Restez avec nous.
Radio J. Le 6-9, Hélène Affaire Radio.
Tous les matins à 7h45 sur Radio J. Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Bonjour, c'est Ilana Ferradian. Vous connaissez ma voix depuis une dizaine d'années maintenant, mais pas forcément mon histoire. Cette histoire, j'ai décidé de vous la raconter sans filtre, à travers mon livre « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA ». Je m'y livre sans tabou, sur mon infertilité, à travers les nombreuses suives que j'ai dû endurer pour avoir ma fille, parce que c'est un sujet qui touche énormément de femmes et de couples dans la communauté. J'espère vous donner de la force et de l'espoir. « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA », aux éditions David Reynarque.
Les cultures juives, ça se défend. Et les CUJ aussi. Soutenir les CUJ, c'est transmettre la richesse des cultures juives, lutter contre l'ignorance et renforcer une vie juive libre, ouverte et accueillante. Les 15 et 16 juin, on compte sur vous pour la première grande campagne d'appel aux dons de les CUJ.
Et votre impact est doublé.
Oui, oui, chaque don compte double.
Double.
Alors rendez-vous les 15 et 16 juin sur allodon.fr/ecuj. Facile, allodon.fr/ecuj.
Le Grand Journal.
Eva Soto.
Merci de nous avoir choisi pour vous informer. Vous nous écoutez à Paris sur le 94.8, partout en France et dans le monde sur radioj.fr, notamment en Israël. Il est 14h20 sur Radio J.
Radio J.
Osei shalom bimrovmal.
Pascal Sunshine.
Pascal, bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J comme chaque jour pour ce grand journal. On fait avec vous bien sûr un point sur la situation sur le terrain dans cette guerre entre Israël et l'Iran. Alors déjà une information importante, hein, selon Tsahal, c'est Israël qui contrôle l'espace aérien autour de Téhéran. Il y a 350 missiles iraniens qui ont été tirés depuis le début de la guerre, donc en 4 jours seulement. Où est-ce qu'on en est de tout ça à la mi-journée? Puis surtout, ce contrôle de l'espace aérien au-dessus de Téhéran, est-ce que ça va permettre de faire diminuer les attaques contre Israël?
Là où on en est, à l'heure où nous parlons, c'est que 4 drones lancés depuis l'Iran ont encore été interceptés ce matin dans le nord d'Israël par la défense antiaérienne. Il n'y a eu ni blessés ni dégâts. Et puis sur les 40 missiles tirés cette nuit par l'Iran, 4 ont percé le système de défense multicouche et ont atteint Haïfa, Petah Tikva, Bnei Brak et Tel Aviv, faisant 8 tués et près de 300 blessés, la plupart heureusement légèrement atteints. À Petah Tikva, c'est l'impact d'un missile entre le 4e et le 5e étage d'un immeuble qui a coûté la vie à 3 habitants qui se trouvaient pourtant dans leur pièce fortifiée. Mais rien ne pouvait arrêter un choc aussi précis et puissant d'une ogive de 500 kilos d'explosifs lancés à pleine vitesse. Et si l'Iran n'a tiré que 40 missiles, c'est que l'aviation de Tsahal a réussi à en détruire plus de 20 juste avant leur lancement, lors de ces frappes préventives la nuit dernière en Iran, y compris des rampes situées à Téhéran, au cœur même de la population civile, c'est-à-dire exactement comme ce que font le Hamas et le Hezbollah, d'où l'importance évidemment que Tsahal ait pris le contrôle de l'espace aérien au-dessus de la capitale iranienne, où se trouvent donc non seulement composantes vitales de son programme d'armement nucléaire, aussi évidemment les responsables scientifiques et militaires du régime, mais donc également des rampes et des dépôts de missiles balistiques sol-sol, donc destinés à attaquer Israël.
24 morts israéliens depuis le début de cette guerre, la plupart, Pascal, alors qu'ils ne se trouvaient pas dans les abris. Mais pourquoi donc?
Parce que 56% de la population n'a pas accès à un abri, à une chambre fortifiée dans son lieu d'habitation, parce que c'est un parc immobilier qui, donc, pour plus de la moitié, a été construit avant le début des années 90, date à laquelle l'ajout ou la construction d'une pièce fortifiée était devenue obligatoire. Donc seuls les immeubles de moins de 35 ans en disposent. Les abris publics, ils existent, mais ils ne sont pas toujours accessibles dans le temps nécessaire pour y accéder à partir du début de l'alerte. C'est d'ailleurs aussi pour cela que les dispositifs de préalerte ont été mis en place, puisqu'il faut à peu près 10 minutes pour un missile balistique tiré depuis l'Iran pour arriver jusqu'en Israël. On met à profit ce répit, ce sursis supplémentaire pour permettre justement à la population de se mettre à couvert, sachant que, évidemment, il n'y a aucune solution parfaite à 100%, mais un abri public, un abri dans l'immeuble, une cage d'escalier quand il n'y a pas d'autre choix, cela permet d'augmenter les chances de survie. Et on voit que ça n'est évidemment pas une plaisanterie, puisque les missiles balistiques iraniens sont largement plus puissants que ceux qu'ont pu tirer le Hamas ou le Hezbollah depuis le début de la guerre. On voit aussi l'effet de souffle sur un rayon de plus de 500 mètres dans les zones touchées, notamment à Tel Aviv, avec une destruction massive et déjà plusieurs dizaines de bâtiments qui ne sont plus habitables, qui ont été évacués et qui devront probablement être détruits.
Effectivement, hein, Pascal, les images qui nous parviennent, ce sont de véritables images de guerre avec des bâtiments effectivement soufflés, détruits. Alors, rapidement, Pascal, le ministère de la Défense a donné son feu vert à la ministre des Transports pour organiser des vols d'évacuation destinés aux Israéliens bloqués à l'étranger avec un lancement prévu sous 72 heures. C'est bon là, ça va arriver, oui. Pascal ?
Ben, écoutez, effectivement, pour une opération préparée depuis 20 ans, apparemment, l'aspect des Israéliens, plus de 150 000 bloqués à l'extérieur, n'avait pas été considéré comme une priorité. Mais apparemment, oui, on devrait arriver dans les jours qui viennent à commencer à rapatrier les Israéliens qui se trouvent à Chypre, mais aussi aux États-Unis ou en Thaïlande. Et à les faire revenir. Alors, pour les plus proches, il est aussi question de faire intervenir des bateaux, notamment des paquebots, mais peut-être aussi tout simplement des voiliers, des yachts qui seraient mis à disposition par leurs propriétaires, une sorte d'opération dynamo à la Churchill, version 2025.
Merci beaucoup Pascal Sunshine, notre correspondante à Jérusalem. On vous retrouve bien sûr demain matin dans le 6-9 présenté par Ilana Ferradian. Et surtout Pascal, d'ici là, prenez bien soin de vous. Bonne fin de journée. Merci Pascal.
Merci.
Radio J.
14h-15h. Le Grand Journal.
Eva Soto.
Et comme chaque semaine, notre rendez-vous avec le Rav Michael Azouler à Bain de Neuilly-sur-Seine. Rav, bonjour.
Bonjour Eva, bonjour à tout le monde.
Et ce lundi, vous souhaitiez aborder le rapport au mensonge qui est proscrit dans la tradition juive. Est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours dire tout ce qu'on pense ?
Alors, en fait, dans la Torah, vous avez plusieurs versets qui nous enjoignent de ne pas mentir. Assez connu, par exemple, « Midevar Sheker Tichak » dans l'Exode, « Éloigne-toi de toute parole mensongère ». Alors, pourquoi je voulais traiter ce sujet ? Parce que, temps de rappeler que dans la tradition juive, il n'y a jamais de, si je peux dire, de valeur absolue. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, en fait, des nuances. Et que, par exemple, si on prend l'exemple du mensonge, donc c'est l'exemple qu'on va prendre aujourd'hui, donc, dans le principe, effectivement, il faut s'éloigner de toute parole mensongère. C'est d'ailleurs, Eva, un sujet d'actualité aujourd'hui.
Bien sûr.
Avec tout le problème des fake news qui est très souvent abordé. Donc, il faut s'en éloigner. Mais il y a plusieurs situations où...
Justement, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que les raisons du mensonge comptent ? Le pourquoi, en fait ?
Alors, oui. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire qu'il y a... Il peut y avoir de bonnes raisons de mentir. Je vais m'expliquer. Hein. Donc, en principe, on ne doit pas mentir. Et on doit tout faire pour vraiment être attaché à la vérité. Maintenant, il y a des situations où on peut mentir, voire même c'est un devoir, oserais-je dire, c'est même une obligation de mentir. Je vais donner quelques exemples. Parfois, par exemple, si vous allez mentir pour ne pas causer de conflit, on parle beaucoup en ce moment de ce problème d'unité du peuple d'Israël face à nos ennemis. Il peut arriver, par exemple, que vous dites la vérité, et puis vous allez faire créer une situation conflictuelle entre les personnes. Donc pour le shalom, et ça c'est une valeur essentielle chez nous, la notion de paix, paix du couple aussi, ou paix entre des amis, eh bien on peut mentir pour éviter qu'il y ait des dissensions. On peut aussi, par exemple, c'est vrai, Eva, c'est tout le problème de la vérité aux patients. Est-ce qu'on doit annoncer une maladie grave à une personne? Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a un devoir de dire la vérité. Mais parfois, la vérité, au lieu d'aider, elle peut décourager. Et il y a aussi une manière de dire la vérité. Est-ce qu'on peut, par exemple, la loi juive dit qu'on peut modifier un peu la manière de dire les choses, l'édulcorer, l'alléger, parce que ça pourrait faire souffrir la personne. Encore un exemple, Eva, en matière d'intimité du couple. Alors ça, c'est intéressant. Il est dit à partir du Talmud, on apprend là-bas qu'on a tout à fait le droit de ne pas dire la vérité quand il s'agit de l'intimité du couple. Et on n'a pas à donner à dire aux gens, à parler de notre vie conjugale, etc. Et donc là, on peut aussi à nouveau mentir. Alors si ce n'est mentir, en tout cas, ce qu'on appelle un mensonge par omission, ne pas dire. Un autre exemple aussi intéressant, c'est en matière de morale personnelle, d'éthique.
Il vous reste 20 secondes. Là, je vous dis la pure vérité.
Ça suffira pour finir. Et ben, par exemple, quand on accomplit de bonnes actions, parfois, il vaut mieux ne pas le dire parce que ça enlève un peu notre mérite. Vous avez l'exemple de la Tzedak, qui donne des fois beaucoup d'argent sans le dire anonymement. C'est un grand mérite parce que ils n'ont pas la satisfaction de l'admiration des gens, un peu d'orgueil. Voilà.
Merci.
D'exception à la vérité.
Merci beaucoup, Rav Michael Azoulay, rabbin de Neuilly-sur-Seine, qu'on retrouve bien sûr chaque semaine sur Radio J.
Radio J.
Eva Soto.
Bonjour et bon réveil, merci d'être avec nous dans le Grand Journal. Bienvenue si vous nous rejoignez à suivre le rappel des titres. Nina, bonjour.
Bonjour Eva, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, Israël contrôle l'espace aérien au-dessus de Téhéran. Benjamin Netanyahou a déclaré « L'armée de l'air israélienne contrôle les cieux de Téhéran ». C'est un changement de toute la campagne. Nous sommes en passe d'atteindre nos deux objectifs. Par ailleurs, l'armée de l'air israélienne a entamé une nouvelle vague de frappes contre des dizaines de cibles en Iran. Les tirs de missiles iraniens ont fait 24 morts en Israël depuis vendredi. Par ailleurs, près de 300 personnes ont été hospitalisées après les attaques de missiles iraniens de la nuit dernière. Les opérations de sauvetage et de recherche se poursuivent. Israël a expulsé en Jordanie les trois derniers passagers du navire humanitaire Madeleine, dont deux Français. Leur expulsion avait été reportée à la suite de l'attaque israélienne contre l'Iran et de la fermeture de l'espace aérien israélien. En Égypte, la marche internationale en direction de Gaza, bloquée par les autorités. Les militants de la marche internationale pour Gaza, partie du Caire, s'étaient fixés pour objectif d'atteindre l'enclave palestinienne hier. Leur mot d'ordre, l'entrée dans le territoire palestinien de l'aide internationale humanitaire. Initiative bloquée donc par les autorités égyptiennes. Enfin, en France, au salon aéronautique du Bourget, les organisateurs ont installé une cloison noire autour des stands israéliens. L'objectif, les isoler visuellement des autres pavillons internationaux, dont ceux de la Turquie et de la Chine. Une décision jugée sans précédent et scandaleuse par le ministre israélien de la Défense, Israël Katz.
Merci beaucoup Nina Alouche. Nina, qu'on retrouve bien sûr tout à l'heure à 15h pour le prochain journal de la rédaction.
Le Grand Journal.
Eva Soto.
Radio J. Radio J. 14h, 15h. Le Grand Journal.
Eva Soto.
Vous êtes bien sûr Radio J. Merci d'être avec nous lundi 16 juin. À suivre l'invité de ce grand journal, le journaliste Emmanuel Razavi. Et puis bien sûr, le bloc-notes si attendu de Gilles William Goldnadel.
Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati.
Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05, et c'est uniquement sur Radio J.
Radio J.
Bonjour, c'est Ilana Ferradian. Vous connaissez ma voix depuis une dizaine d'années maintenant, mais pas forcément mon histoire. Cette histoire, j'ai décidé de vous la raconter sans filtre, à travers mon livre « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA ». Je m'y livre sans tabou sur mon infertilité, à travers les nombreuses suives que j'ai dû endurer pour avoir ma fille. Parce que c'est un sujet qui touche énormément de femmes et de couples dans la communauté. J'espère vous donner de la force et de l'espoir. 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA, aux éditions David Reynarque.
Les cultures juives, ça se défend. Et l'ÉKUJ aussi. Soutenir l'ÉKUJ, c'est transmettre la richesse des cultures juives, lutter contre l'ignorance et renforcer une vie juive libre, ouverte et accueillante. Les 15 et 16 juin, on compte sur vous pour la première grande campagne d'appel aux dons de l'ÉKUJ.
Et votre impact est doublé.
Oui, oui, chaque don compte double.
Double.
Alors rendez-vous les 15 et 16 juin sur allodon.fr/ÉKUJ. Facile, allodon.fr/ÉKUJ.
La journée est belle. Vous écoutez Radio J.
Mon bébé,
vous écoutez
Radio J. Radio J.
Radio J. Radio J. Radio J.
שאתה מפחיד, ואם אתה לא מתכוון להרים לי תוריד את התמונות מהפיד, ואם יש לך מה להגיד כפרה תגיד שירה לך ככה שאני בטוב ושאין לך בלילה את מי לאהוב אתה יודע שאין לך סיכוי מול הפה שלי מאמי כי אני חתולת רחוב
רדיו ג' זה? זה טימי כמו זה רדיו ג'
רדיו ג' רדיו ג'
פאפה שירי אקוט מואש וג'יסט בלה Viens vite avec moi, on va se balader.
Radio J.
Vous écoutez Radio J.
Le grand journal.
Eva Soto.
Merci d'avoir choisi Radio J pour vous informer. Vous êtes au cœur de votre grand journal à Paris sur le 94.8, partout ailleurs dans le monde sur radioj.fr. Tout de suite, notre journaliste invité spécial sur la guerre Iran-Israël, le journaliste Emmanuel Razavi.
Radio J, l'invité du grand journal.
Radio J.
Bonjour Emmanuel Razavi.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci. C'était moins une. Mais, ouais, c'était moins une, mais on vous a, on s'est retrouvés, c'est l'essentiel. Emmanuel Razavi, le régime islamique iranien appelle, par exemple, l'Agence internationale d'énergie atomique à condamner ce qu'il appelle des frappes israéliennes. L'ambassadeur du régime islamique d'Iran était interviewé ce matin chez nos confrères de France Inter et il dit que son pays est obligé de se défendre. Mais de se défendre de quoi, de qui et pourquoi ?
Écoutez, déjà l'ambassadeur de la République islamique d'Iran est l'ambassadeur quand même d'un pays qui torture son pays, qui viole des adolescentes de façon systématique en fait dans les prisons. Ce monsieur travaille pour les services de renseignement en fait iraniens. Donc écoutez, qu'il soit reçu, je comprends qu'il interroge, hein, c'est notre métier de journaliste de donner la parole à tout le monde, mais sa parole ne vaut pas cher, c'est la parole en fait d'un factotum, si vous voulez, d'un régime assassin. Je suis bien placé pour savoir de quoi je vous parle, étant d'origine iranienne moi-même. Voilà, donc écoutez, ce n'est que du mensonge, hein, je vous dis les choses de façon très claire.
Mm-hmm. Bien sûr, mais c'est pour ça que je vous pose la question.
Ils cherchent en fait aujourd'hui à inverser la charge responsabilité, c'est-à-dire qu'ils veulent faire... c'est la rengaine de l'État iranien, de la République islamique d'Iran depuis des années, que de nous faire croire que Israël, si vous voulez, est un État dangereux pour eux, alors que c'est l'inverse. Je rappelle pour vos auditeurs que la République islamique d'Iran, en 1979, s'est dotée d'une constitution dans laquelle il est bien spécifié qu'il faut porter le djihad à l'international. Elle s'inspire des textes de l'ayatollah Khomeini, fondateur de la République islamique d'Iran, qui disait qu'il fallait éradiquer Israël de la surface de la terre. Je vais être très clair, et j'espère que l'ambassadeur nous écoute. On enseigne actuellement à l'école des Pasdaran en Iran, les gardiens de la révolution, que l'heure de l'apocalypse, de l'affrontement avec le mal qui est incarné sur terre par Israël et les États-Unis est arrivée. Alors si vous voulez la parole d'un diplomate, si vous voulez d'un tortionnaire, disons que, vous voyez, on pourrait dire la même chose de, comment dire, d'un diplomate travaillant pour Kim Jong-un. Voilà, donc j'espère que ma réponse convient, elle est un peu directe, j'en conviens.
Bien sûr.
Voilà, disons les choses à un moment.
Elle est un peu directe, mais effectivement, les choses sont dites, comme ça, ça va mieux. Emmanuel Razavi, quand le gouvernement israélien alors parle d'une guerre existentielle, c'est justifié alors ?
Et évidemment, il suffit de se replonger, je dirais, dans les textes originels, si vous voulez, de la République islamique d'Iran. Regardez les textes fondateurs de l'ayatollah Khomeini des années 60-70, hein, sont des textes qui sont profondément, en fait, antisémites. Je dis bien antisémites, pas antisionistes, antisémites. La République islamique d'Iran s'est créée, en fait, sur l'antisémitisme. Alors, bien sûr, via ses proxys, si vous voulez, qu'elle finance... elle a aussi financé, si vous voulez, des opérations de communication servant à distiller des éléments de langage, comme par exemple dire qu'il combattait le sionisme. Vous voyez, mais la réalité, c'est que si vous lisez les textes originels, si vous voulez, de toutes ces organisations, à commencer par l'État, de la République islamique d'Iran, on est vraiment, si vous voulez, dans un... C'est un État qui veut détruire Israël, qui veut éradiquer les Juifs de la surface de la Terre. Je ne peux pas être plus clair.
Emmanuel Razavi, est-ce que la menace nucléaire iranienne, elle est si avancée qu'il est dit notamment par Jérusalem, par le gouvernement israélien ou peut-être par d'autres aussi d'ailleurs? Est-ce que si Israël n'attaquait pas, dans 3 semaines, 1 mois, 1 an, 1 mois, 2 ans, Israël recevait des missiles avec des têtes nucléaires dessus?
Écoutez, je crois que la menace est réellement existentielle pour Israël. Moi, toutes les informations que j'ai, qui viennent quand même d'experts, disent que quand même l'Iran, la République islamique d'Iran, approchait de plus en plus de la capacité en fait, hein, d'avoir peut-être 5, d'autres 19, les Iraniens parlent de 15, en tout cas, bombes nucléaires. La réalité, c'est que ce soit dans 6 mois, dans 1 an ou dans 15 jours, ils l'auraient utilisé très probablement contre l'État hébreu, parce qu'encore une fois, c'est inscrit, je dirais, dans la genèse de ce régime, de la République islamique d'Iran. Je voudrais pas que vos auditeurs croient que j'exagère. Vous savez, je suis un reporter de terrain. Voilà, donc je parcours le Moyen-Orient depuis presque 30 ans. Mais à côté de ça, je lis beaucoup les textes. Moi, ce qui m'intéresse quand je travaille sur les organisations
djihadistes,
hein, que je suis content, ce sont aussi les sources originelles. Parce que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter à l'origine. Voilà. La République islamique d'Iran, qui a été créée par l'ayatollah Khomeini, a été fortement inspirée dans sa structure par l'organisation des frères musulmans égyptiens. J'insiste là-dessus parce que vous avez des gens pendant des années en France qui ont dit que ça n'a rien à voir. Sauf que l'ayatollah Khomeini appartenait aux fedaïn et islam, les fedaïn de l'islam, qui étaient la branche chiite des frères musulmans égyptiens et qui ont juré allégeance, serment d'allégeance, prêté serment d'allégeance aux frères musulmans égyptiens en 1954. Leur chef, c'était Nawab Safavi, qui était le mentor de l'ayatollah Khomeini. Mm-hmm. D'accord. Donc, je veux dire par là, c'est que l'inspiration, si vous voulez, comment dire, belliqueuse, islamiste, totalitariste, en fait, de la République islamique d'Iran, elle remonte finalement très très loin, parce que les frères musulmans...
Elle remonte aux racines, au fondement même...
l'islamisme contemporain, l'islamisme contemporain.
Alors, Emmanuel Razavi, on voit depuis ce matin, quelques heures, des files de voitures entières qui quittent Téhéran, qui partent de la capitale. Quel est l'état d'esprit des Iraniens avec qui vous pouvez parler? Est-ce qu'ils ont peur des bombardements? Est-ce qu'ils se disent que c'est peut-être la fin du régime et ça leur donne de l'espoir, les deux?
Écoutez, c'est un mélange des deux, comme vous le dites très bien. Il y a à la fois la peur. Hein. Moi, les Iraniens avec qui j'ai communiqué encore ce matin, avant qu'il a pas laissé faire, me disaient quand même, faisaient part de leur peur. Il y a aussi beaucoup de désinformation, parce qu'on leur dit en fait que Israël va frapper les civils iraniens. Donc, il y avait beaucoup d'inquiétudes ce matin. Voilà. Et si vous voulez, les gens, bon, sont soit terrés chez eux, soit parfois vont dans la rue. On a vu ces vidéos où les gens vont danser, chanter, applaudir, l'aviation israélienne. Vous voyez, c'est un mélange de tout ça, en fait, de peur, d'espérance. Ce qui m'est dit beaucoup, quand même, depuis ces dernières 72 heures, c'est que les Iraniens espèrent que Israël ira très vite, pour faire tomber, le régime. Hein. En clair, les Iraniens, ils attendent majoritairement un changement de régime. Il y a bien sûr des gens qui soutiennent encore le régime, mais ils sont minoritaires en fait en Iran. Ce sont les rentiers du régime. C'est des gens qui travaillent pour l'administration, pour les gardiens de la révolution, pour leur milice civile. Voilà, donc je pense que moi, rien n'est joué, parce que vous savez bien, une guerre, on ne sait jamais comment ça se termine. Mais en revanche, de toute façon, il y a une attente. Et puis je le dis pour vos auditeurs, je le dis d'ailleurs en étant moi, parlant avec mon sang iranien, vous savez que les Iraniens, je parle de la population, hein, je parle pas de la République islamique, nous sommes, si vous voulez, on se considère comme étant les cousins du peuple juif. Il y a une vieille histoire qui nous unit aux Juifs. Et je pense que c'est quand même le rôle aussi des journalistes que nous sommes à un moment donné de le rappeler, parce que j'entends des choses absolument abominables dans certaines émissions de télévision ou de radio. Voilà, les Iraniens, de la population iranienne, majoritairement, veulent une relation pacifiée avec Israël. Ne pas le comprendre, ne pas le savoir, c'est ne pas connaître la culture iranienne, je crois.
Emmanuel Razavi, journaliste iranien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a réussi à se retrouver malgré la panne SFR et on est content de vous avoir eu pour tous ces éclairages aujourd'hui dans le grand journal de Radio J. À bientôt sur Radio J. Merci beaucoup Emmanuel, bonne journée à vous. Merci.
Merci.
Radio J, le bloc-notes.
Et comme chaque lundi, on retrouve Maître Gilles William Goldnadel pour son bloc-notes. Bonjour Gilles William.
Bonjour Eva.
Alors, évidemment, on va reparler des réactions à l'extrême gauche concernant cette guerre entre Israël et l'Iran. Mais tout d'abord, je tenais à vous faire réagir aussi sur ce qui se passe à la veille de l'ouverture du salon aéronautique de Paris au Bourget. Il y a des bâches noires, apparemment, qui ont été mises autour des stands israéliens et les organisateurs de l'événement ont exigé des participants israéliens à ce salon de l'aéronautique le retrait de plusieurs systèmes d'armement offensif exposés sur les stands. Votre réaction ?
Oh, ma réaction est dépitée, mais pas étonnée. Vous savez, c'est une décision gouvernementale. Donc, nous avons en réalité un président de la République qui avait promis de défendre militairement Israël, et la seule manifestation concrète de cette assistance, c'est de priver le stand israélien de ses armements.
Est-ce que vous iriez, Gilles William Goldnadel, jusqu'à dire qu'il y aurait une forme d'anti-israélisme officiel en France ?
Oui, c'est une sorte de... Il y a un anti-israélisme officiel au Quai d'Orsay qui est constant dans le cadre de ce qu'il s'appelle la politique arabe de la France et avec une nouvelle...
Pourtant, Gilles William Goldnadel, quand on interroge l'ambassadeur d'Israël en France, par exemple, malgré tous les désaccords, etc., il considère la France comme un pays allié d'Israël.
Oui, vous savez, la différence entre M. Zarqa et moi, c'est que je ne suis pas diplomate, d'abord. Et deuxièmement, oui, écoutez, j'ai du mal à voir les... Vous savez, il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour, hein. Donc, pardon, mais je suis très sceptique, mais c'est aussi céder à l'air du temps. Écoutez, en tous les cas, on a un président qui disait vouloir lutter contre le Hamas et qui n'a même pas marché contre l'antisémitisme. C'est pareil. Donc, je suis assez résigné à voir l'immense distance entre le dit et le fait chez M. Macron.
Alors, il y a des endroits où l'immense distance entre le dit et le fait se réduit considérablement. Par exemple, dans les rangs de LFI, où LFI a été outré par la réaction de la France aux opérations israéliennes en Iran. Une honte absolue, dit LFI, parce que Jean-Noël Barrot et Emmanuel Macron... là, vous venez d'évoquer ce que vous avez dit, mais on réaffirmait le droit d'Israël à se défendre et à se protéger. Et ça fait bondir les insoumis.
Oui, parce que même en parole, les insoumis ne peuvent pas accepter le moindre manque de soumission à l'islamisme. C'est comme ça qu'il faut
le dire. Est-ce que c'est une soumission à l'islamisme structurelle ou conjoncturelle? Parce que finalement, le problème de LFI, est-ce que ce n'est pas plutôt Israël?
Non, pas du tout. Le problème de LFI, détrompez-vous, ça n'est pas Israël, ça n'est certainement pas les Palestiniens, vous le voyez bien. Là, ils sont dans la soumission.
Pourquoi on le voit bien? À quoi on le voit bien?
Non mais Eva, si je peux aller jusqu'au bout de ma démonstration, parce que sinon je m'en sortirai pas. Pardon. Là, ils sont dans la soumission aux ayatollahs qui pendent les homosexuels, qui torturent les opposants, qui voilent de force les fillettes. Ça n'est pas les Palestiniens. Et au-delà de cela. Ce qui les intéresse en vérité, et ça passe par la soumission à l'islamisme, c'est la destruction des États-nations occidentaux et blancs, pour dire les choses de manière chromatique. Ils sont dans une véritable soumission intellectuelle et détestation de ce que nous sommes.
Alors, Israël, c'est un État blanc ?
Alors, bien entendu que dans le fantasme de l'extrême gauche, Israël est l'État-nation occidentale blanc qui, en plus, se bat le plus bec et ongles. C'est la représentation du juif qui a changé. Il y a 100 ans, pour l'extrême droite, le juif était un métèque. Aujourd'hui, pour l'extrême gauche, le juif est un blanc au carré.
Merci beaucoup, Gilles William Goldnadel, qu'on retrouve bien sûr chaque semaine sur Radio J pour son bloc-notes. Bonne semaine à vous, merci.
Merci Eva.
Merci, à bientôt.
Radio J. Eva Soto.
Et comme tous les lundis, notre rendez-vous avec le Rav Chaim Nissenbaum pour le Tania. Rav, bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous comme chaque lundi dans ce grand journal sur Radio J. On reprend la lecture du Tania dont vous allez nous livrer votre analyse. Hein. Même en ce qui concerne ses familiers qu'il a réprimandés, qui ne sont pas repentis et qui lui est prescrit de haïr, l'obligation demeure de les aimer aussi. Deux injonctions sont justes, la haine en raison du mal qui est en eux, l'amour à cause de l'aspect du bien caché en eux, qui est l'étincelle divine qu'ils contiennent et qui anime leur âme divine. Il doit aussi éveiller la compassion pour celle-ci dans son cœur, car elle est captive du mal de la citra hara qui triomphe d'elle chez les méchants. La compassion détruit la haine et suscite l'amour, comme nous le savons par l'interprétation du texte à la maison de Jacob qui lui a racheté Abraham. Alors, on attend votre interprétation, Rav Nissenbaum.
Eh bien, c'est un chemin pour un principe essentiel, mais littéralement essentiel, un des principes de base du judaïsme, de la vie juive, que l'on appelle l'amour du prochain. Alors, l'auteur du Tania a abondamment développé cette idée. Et il nous a montré à quel point cet amour est impératif et s'adresse à tous. Or, nous nous retrouvions devant une question. C'est que nous trouvons par ailleurs des textes qui semblent aller dans le sens opposé, des textes tout à fait classiques, des textes saints, qui nous disent qu'il faut détester les méchants. Les méchants au sens spirituel du terme, autrement dit pas le méchant garçon, mais celui qui renie Dieu, celui qui s'écarte de sa volonté. Alors nos textes antiques nous disent qu'il faut le détester parce qu'il ne faut pas avoir de contact avec lui a priori qui pourrait être contaminant, surtout dans l'ambiance de l'époque. Alors l'auteur du Tania nous dit attention, ne nous méprenons pas sur le sens de ces textes. Lorsqu'on nous dit qu'il faut les détester, leur vouer une véritable haine, ce n'est pas d'eux que l'on parle. C'est que tout homme a en lui deux aspects. Voilà une vérité qu'il faut véritablement rappeler à chaque instant, surtout certainement dans notre époque. L'homme a en lui deux penchants. Il a en lui le bien, il a également le contraire, il a également le mal. Parfois, il suit le bien. Parfois, hélas, il suit l'inverse. Mais quand on voit un homme mal se comporter, alors que ce soit au sens spirituel, spécifiquement de la pratique des commandements, ou que ce soit dans un sens plus moral, pourrait-on dire, et bien plus général, et bien dans tous les cas, ce que l'on déteste, ce n'est pas lui, ce n'est pas la personne, ce n'est pas l'homme tout entier. Ce que nous détestons, c'est le mal que nous observons en lui. Et en revanche, même au moment où il se comporte mal, nous nous souvenons qu'il a une partie qui s'appelle le bien, et que cette partie-là, nous l'aimons. Et même plus encore, dit l'auteur, il faut aller plus loin dans cette démarche. Ce n'est pas simplement que d'un point de vue théorique, il faut l'aimer pour le bien et détester le mal, mais ce qui reviendra un petit peu au même, parce que finalement, quand il fait du mal, c'est ce qu'il exprime. L'auteur du Tania nous dit non, absolument pas. En réalité, il faut avoir de la compassion profonde pour lui, et non pas de la haine, ni de la colère. De la compassion, parce que nous voyons qu'il est prisonnier de quelque chose. Il est prisonnier de ce que le texte a appelé la citra achara. Qu'est-ce que c'est que la citra achara? C'est de l'araméen. Hein. Et cela veut dire l'autre côté, le côté qui n'est pas celui du bien, le côté qui n'est pas celui de la sainteté. Alors il est prisonnier de ce mauvais côté-là. Il en est prisonnier, il aspire à s'en libérer, mais il ne le perçoit pas, il n'en est pas conscient. Et notre compassion, justement, pour l'âme divine qu'il possède et qui est éternellement bonne, eh bien notre compassion s'étend à tous les aspects de sa personnalité. Notre compassion, ce faisant, contribue au contraire à le libérer et à en faire quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Alors c'est un petit peu tout ça l'enjeu en réalité. Il faut, dans notre rapport avec notre prochain, nous ne pouvons pas le juger, même si parfois on est obligé de le faire. Mais le but n'est pas de le juger. Le but est de lui, d'une certaine manière, de lui rendre sa liberté. Et quand nous le faisons, alors à ce moment-là, nous découvrons qu'il est fondamentalement bon.
De lui rendre sa liberté, ça va avec le fait de le comprendre?
Absolument. Cela veut dire qu'en réalité, il y a toujours une place pour chacun. Alors c'est une idée très importante qu'on analyse ici. Parce que finalement, l'amour du prochain, cela peut rester une idée théorique. On pourrait penser que, bon, c'est très joli, c'est écrit dans les livres, mais finalement, qui l'applique? Eh bien, l'auteur du Tania nous dit que c'est quelque chose à mettre en pratique. C'est au contraire quelque chose sans quoi nous ne pouvons pas vivre. Parce que la réalité du monde est celle de l'amour. La réalité du rapport avec notre prochain est celle de l'amour. Et si nous ne l'avons pas, nous retirons quelque chose à l'autre, bien sûr, mais nous le retirons aussi à nous-mêmes. Nous perdons quelque chose d'essentiel. Et c'est un petit peu cela qu'il faut garder en tête. N'oublions pas la pensée fondamentale de la Torah, c'est que nous constituons tous une seule entité. Nous sommes comparables, nous disent nos textes, à un seul grand corps. Et si nous retirons une partie de ce grand corps en rejetant l'autre, alors bien sûr nous retirons quelque chose à l'autre. Mais aussi, nous le retirons à nous-mêmes, nous sommes séparés d'une partie de nous-mêmes, autrement dit, à partir de ce moment-là, nous ne sommes plus une entité complète. C'est donc toujours à la recherche de l'autre qu'il faut aller.
Merci beaucoup Rav Chaim Nissenbaum. On peut bien sûr podcaster toutes vos chroniques sur radioj.fr. Bonne fin d'après-midi à vous. Merci.
Bonne journée à vous.
Radio J, 14h, 15h, le grand journal.
Eva Soto.
Et oui, c'est la fin du grand journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et sur toutes les plateformes. À suivre sur Radio J le morning. Rendez-vous à 14h en direct pour le grand journal sur Radio J.